Chers amis des cellules, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui du sort des enfants morts sans baptême et de l'espérance de l'Église à ce sujet. Le thème de ce jour est motivé par l'actualité paroissiale où une famille vient de perdre son petit Gaspard frappé par la mort subite des nouveau-nés. Il aurait dû être baptisé à la fin de l'année. Nous réfléchirons à partir d'un article du père Serge Thomas Bonino, dominicain, qui est depuis décembre 2011 le secrétaire de la Commission théologique internationale et depuis novembre 2014 président de l'Académie pontificale de Saint Thomas d'Aquin. C'est un article qu'il avait publié le 12 mai 2007 dans le numéro 1530 de la revue La Nef. Son article présente la maturation de la réflexion théologique sur le délicat problème pastoral des enfants morts sans baptême. Son article fait à la fois droit aux données traditionnelles, lesquelles n'impliquent pas nécessairement l'hypothèse des limbes. Le père Bonino fait un résumé d'un document de la Commission théologique internationale intitulé « L'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême » paru lui aussi en 2007. Ce document fait une trentaine de pages à quatre, vous pouvez le trouver sur le site du Vatican. L'article du père Bonino est en trois temps. Premier temps, le salut chrétien n'est pas automatique. Deuxième temps, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Troisième temps, la grâce miséricordieuse du Seigneur. Je commence la lecture. Le salut chrétien n'est pas automatique. Saint Thomas d'Aquin explique que l'espérance chrétienne porte sur un bien futur, difficile mais possible. On n'espère ni ce qui est absolument certain, ni ce qui est totalement impossible. Le bien futur espéré pour ses enfants est ici le salut, la vie éternelle, c'est-à-dire le bonheur qui consiste dans la pleine communion avec les personnes de la Trinité. Il y a deux choses à relever dans ce premier paragraphe. Le premier, c'est le rappel de ce qu'est la vie éternelle, un bonheur qui consiste dans la pleine communion avec les personnes de la Trinité. Le salut, c'est d'être rendu participant de la vie divine, de la communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Voilà ce qu'on appelle le salut. Le deuxième point à relever, c'est ce que l'on désigne par espérance, un bien futur, difficile, mais possible. Et donc, cela signifie, si c'est possible, c'est que ce n'est ni totalement impossible, mais ni absolument certain. Pourquoi faire cette distinction? Parce que lorsqu'un petit enfant baptisé meurt avant l'âge de raison, et donc avant le moment où il peut faire un péché personnel, nous avons une certitude de foi qu'il est au ciel. Et donc les obsèques d'un enfant baptisé ne sont pas des obsèques où l'on prie pour lui, on a la certitude qu'il est au ciel, mais où l'on prie pour ses proches, pour la douleur qu'ils éprouvent de la séparation d'avec l'être aimé. Mais il y a certitude que le petit enfant baptisé est au ciel. Lorsque l'on parle d'un enfant mort sans baptême, on n'est plus dans la certitude de foi, mais on va être dans le registre de l'espérance. Donc quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas certain. Il y a une dimension de mystère qui est présente. Je reprends la lecture. Ce bien est difficile, car le salut chrétien n'a rien d'automatique. Aussi, la Commission théologique internationale, nous l'appellerons CTI dans la suite, ne prend-elle pas à la légère la tradition séculaire qui exclut les enfants non baptisés de la vision béatifique? Le premier chapitre du document, Histoire et interprétation de l'enseignement catholique, est précisément consacré à l'examen de cette tradition. Si elle souffre de certaines limites, elle n'en essayait pas moins d'être cohérente avec certains principes de la foi, qu'il n'est pas davantage question aujourd'hui de brader. Ces principes sont rappelés au deuxième chapitre intitulé « Chercher à discerner les voies de Dieu, principes théologiques », en même temps que certaines vérités qui n'ont peut-être pas été suffisamment prises en compte jusqu'à présent. Relevons donc que la tradition séculaire latine excluait plutôt les enfants non baptisés de la vision béatifique. Nous allons essayer de comprendre ce point. Je reprends la lecture. Il ne s'agit donc pas de canoniser le raisonnement simpliste. Ces bébés n'ont rien fait de mal. Comment Dieu serait-il assez cruel pour les priver du paradis? C'est oublier, primo, que le salut n'est pas un droit, mais un don gracieux, qui dépasse de loin tout ce à quoi l'homme peut prétendre. On ne naît pas fils de Dieu, on le devient par grâce. La vie surnaturelle n'est pas le simple prolongement de la vie naturelle, elle est d'un autre ordre. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, trouve-t-on dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3, le verset 5. Il y a dans ce paragraphe une prudence de l'Église par rapport à la nécessité du baptême, face à ceux qui estimeraient que le baptême n'est pas nécessaire. On rappelle le fait que la vie divine, la participation à la vie divine, est un acte surnaturel. Il n'est pas produit par notre propre nature. Même sans aucune présence du péché, la nature ne participe pas à la vie surnaturelle de Dieu. Il lui faut une élévation qu'elle ne produit pas par ses propres forces, mais qu'elle reçoit gracieusement de Dieu. Donc, sans ce don gracieux de Dieu qui nous élève de notre nature à la vie surnaturelle de Dieu, il n'y a pas de participation à la vie divine. Il n'y a pas de participation au salut. Il nous faut cette union à la vie du Christ, c'est-à-dire le lien au Christ par le baptême, pour entrer dans la vie divine. On rappelle ceci, la nécessité du baptême, de la participation à la mort et à la résurrection du Christ, pour entrer dans la communion divine. Pour prendre un exemple stupide, autant un haltérophile, s'il s'entraîne, est sûr d'avoir de gros muscles, autant il ne suffit pas de faire des bonnes actions pour acquérir la vie divine. On ne la produit pas par nous-mêmes, nous ne sommes que des créatures, nous produisons des choses qui sont de l'ordre de la créature. Nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes la vie divine, nous devons la recevoir. Reprend la lecture. C'est oublier, secundo, que tout homme vient au monde dans un état de misère et d'opposition à Dieu. La CTI rappelle clairement que le péché originel implique un état de séparation avec le Christ qui exclut la possibilité de la vision de Dieu pour ceux qui meurent dans cet état. On rappelle dans ce paragraphe que tout homme naît marqué par la blessure du péché originel. Rappelez-vous, le péché originel, si c'est une donnée de foi de l'Église, donc quand on est catholique, nous croyons que nous naissons marqués par le péché originel dont l'effet est de nous séparer de Dieu, mais c'est un état hérité, ce n'est pas un péché personnel que l'on aurait commis. Quand je frappe mon voisin injustement, là c'est un péché personnel que j'ai commis. Le péché originel est un état que j'ai hérité. Pour prendre encore un exemple trivial, si à votre naissance on vous a déposé au fond d'un trou, au fond d'un puits profond, vous n'avez pas la liberté d'aller où vous voulez. Vous êtes au fond du trou, au fond du puits. Et tant qu'on ne vous en sortira pas, vous êtes prisonnier de ce puits. On est prisonnier ainsi du péché originel. Et celui-ci est un obstacle à l'élévation à la vie divine. La vie divine ne peut pas être obtenue sans que cet obstacle soit levé. Je reprends la lecture. Le salut n'est donc jamais acquis par simple droit de naissance. Il nécessite toujours une conversion. Pour entrer au ciel, il faut être racheté du péché, que ce soit le péché originel ou les péchés personnels. Il faut recevoir et accueillir la grâce rédemptrice que Jésus-Christ nous a méritée. Soulignons ici l'élément de conversion. On nous dit « il nécessite toujours une conversion ». Ça signifie une implication de la liberté. Ça signifie une implication de la décision de l'homme. Donc il faudra aussi comprendre cette question, résoudre cette question. Comment des petits-enfants qui n'ont pas l'âge de raison peuvent-ils être associés à cette conversion, puisque, a priori, ils n'ont pas l'usage de la raison qui leur permet de s'engager, donc de vivre une conversion personnelle. Reprend la lecture. Comment cette grâce du Christ nous rejoint-elle ? Elle passe toujours par l'Église, qui est le sacrement universel du salut, le moyen par lequel Jésus-Christ nous unit à lui. Plus précisément, elle nous est donnée par les sacrements reçus dans la foi, spécialement le baptême, dont la Commission théologique internationale rappelle qu'il est le moyen ordinaire d'union au Christ. Je souligne ici que le moyen ordinaire du salut, c'est-à-dire le moyen par lequel la grâce du Christ nous rejoint, c'est l'Église. C'est par l'Église que la grâce du Christ nous rejoint. C'est par elle que le salut nous est donné. C'est par elle que l'union à la mort et à la résurrection de Jésus nous est conférée de façon ordinaire. Reprends la lecture. Est-ce à dire que sans le baptême, comprenons sans le sacrement du baptême, le salut est impossible? Certes non. Dans le cas d'un adulte, dans l'impossibilité d'être baptisé, on a toujours admis que le désir du baptême, ou un acte de foi implicite au Christ Sauveur, permettait de lui être uni et une certaine intégration dans l'Église. Mais qu'en est-il des enfants, incapables de poser un acte libre d'adhésion directe au Christ? Pendant longtemps, l'Église n'a pas vu par quel moyen, autre que le sacrement de baptême, il pouvait bien être mis en contact avec le Christ Sauveur. C'est pourquoi la théologie médiévale a élaboré l'hypothèse des limbes. Les enfants morts avec le péché originel, du fait qu'ils ne sont pas membres du Christ, sont privés de la vision de Dieu, mais n'ayant commis aucun péché personnel, ils ne souffrent aucunement. Ils jouissent même d'un authentique bonheur naturel, heureux de connaître Dieu comme celui qui leur a donné l'existence. Ils éprouvent pour lui un élan d'amour qui fait toute leur joie. Prenons le raisonnement qui, au XIIe-XIIIe siècle, ont valu l'élaboration de cette hypothèse des limbes. On se disait, le baptême est nécessaire au salut, et les enfants morts sans baptême ne l'ont pas reçu sacramentellement. Comme ce sont des petits-enfants, ils n'ont pas encore l'usage de la raison, et n'ont donc pas pu faire un acte personnel d'adhésion à Dieu qui leur ait obtenu un baptême de désir. Donc, ils n'auraient pas reçu ce baptême, donc ils sont séparés de Dieu, ils sont damnés, séparés de la vie divine. C'est ainsi qu'on raisonnait. Mais, comme ils n'ont pas de péché personnel, puisqu'ils n'ont pas l'usage de la raison, ils ne souffrent pas, ils n'éprouvent pas le feu de l'enfer. Au contraire, ils éprouvent même une certaine joie, une joie naturelle, mais pas la joie surnaturelle de la participation à la vie divine. Tel était l'enseignement commun, à partir du XIIe-XIIIe siècle en Occident, mais vous noterez que cet enseignement, s'il était commun, n'était pas un enseignement dogmatique, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie à proprement parler de la foi catholique, c'est-à-dire qu'on pouvait être catholique sans adhérer à cette hypothèse. Saisissons cependant le bien qui était poursuivi par cette hypothèse des limbes. C'était d'une part la nécessité de l'union surnaturelle à la vie de Jésus par le baptême, premier bien que l'on veut affirmer, et deuxième bien, le respect de la justice. Ceux qui n'ont pas l'usage de la raison, les petits-enfants, ne peuvent pas souffrir comme ceux qui se sont volontairement coupés de Dieu par leurs actions mauvaises. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, je sais que c'est un peu frustrant parce qu'on voudrait connaître la suite, et nous allons retenir peut-être cinq choses. Le premier, le salut n'est pas une réalité naturelle produite par nos seuls efforts ou notre seule volonté résolue. Le salut, la participation à la vie de Dieu, n'est pas le produit de nos seuls efforts. Deuxièmement, le salut est une réalité surnaturelle qui doit être reçue de Dieu. C'est une élévation de la vie naturelle à la vie surnaturelle, de la vie de créature à la communion, à la vie divine du Père, du Fils et de l'Esprit. Et lorsque le péché a été présent, il faut d'une part une libération du péché, et d'autre part, toujours cette élévation de la vie naturelle à la vie surnaturelle. Troisièmement, le moyen ordinaire du salut voulu par Dieu, c'est le baptême sacramentel et la vie en Église qui en découle. Voilà le moyen ordinaire que Dieu a voulu répandre sur la terre par le biais de l'Église et des chrétiens. Quatrièmement, le baptême de désir, donc qui est un baptême non sacramentel, implique un acte personnel d'adhésion au Christ. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et donc, on pouvait penser que celui qui n'a pas l'usage de la raison, puisqu'il n'est pas encore en âge de faire cet acte personnel, eh bien ne pouvait pas bénéficier du baptême de désir. Du coup, et c'est la cinquième chose, on a développé une hypothèse qui voulait tenir à la fois la nécessité du baptême pour le salut, et puis également la justice en lien avec la responsabilité personnelle. Et donc, quel pouvait être le sort de ceux qui n'avaient pas reçu le baptême et qui n'avaient pas non plus de responsabilité personnelle de péché. Et le Moyen-Âge du XIIe, XIIIe siècle avait proposé cette hypothèse des limbes. Qu'est-ce que c'était, je le rappelle? Donc, à l'intérieur de la damnation, c'est-à-dire de la damnation, c'est la séparation d'avec la vie divine, un état très particulier où on était à la fois séparé de la vie divine, on ne participait pas à cette vie surélevée de Dieu, mais on était dans un état sans souffrance et même un état de joie naturelle, et ce serait l'état des enfants morts sans péché personnel. Donc un état tout à fait différent de celui des démons et de celui de ceux qui ont choisi de se séparer de Dieu, qui ont refusé la communion avec Dieu et qui du coup souffrent une peine à feu de l'enfer, pour reprendre les expressions traditionnelles. L'hypothèse des limbes était l'hypothèse traditionnellement enseignée, mais qui n'était qu'une hypothèse. Alors, ce n'était pas un enseignement dogmatique. Bons échanges, bonne journée, et la semaine prochaine, nous verrons dans le détail les éléments qui nous permettent d'avoir une espérance ferme de salut, de produire une espérance ferme de salut pour les enfants morts sans baptême. Bons échanges.